Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais boudé son plaisir face à de la belle mécanique cinématographique, du scénario bien huilé, de la mise en scène où tous les pistons s'alignent à la perfection, du jeu, de la vie, de l'énergie roulant à fond de caisse sur l'autoroute du plaisir. Et si tout ça est agrémenté au passage de vraies voitures, ça n'est pas plus mal. De toute façon, vous le savez aussi bien que moi, l'automobile est depuis sa démocratisation un élément quasi constant du langage cinématographique qui a su en jouer, en utiliser tous les aspects, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. On va essayer de faire le tri au cours de cette émission spéciale bagnole et cinéma enregistrée pour l'occasion depuis le mondial de l'auto, oui oui, à Paris, porte de Versailles, où m'ont rejoint trois valeureux mécanos de la critique, Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Vroom vroom.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné spéciales bagnole et cinéma et c'est parti.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Alors, pour éviter que ça ne parte dans tous les sens, cette histoire, parce que le sujet est très 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 vaste, on a décidé avec mes camarades ici présents de procéder de manière arbitraire en déterminant des catégories pour chacune d'entre elles. Chacun de mes trois compères citera sa scène ou son film préféré, on en débattra comme on en a l'habitude. Ces catégories, je vais les livrer d'entrée. Meilleure course-poursuite, pire course-poursuite, meilleure scène de sexe en voiture, meilleur accident ou explosion de voiture, meilleur chauffeur ou pilote, meilleur accessoire de voiture, meilleure scène de personnage qui chante en voiture, meilleure cascade et évidemment, meilleure voiture pour terminer. Je précise qu'il est rigoureusement interdit, messieurs, petite difficulté supplémentaire de parler de Fast and Furious. Attaquons sans attendre parce qu'on a du boulot. Meilleure course poursuite, qui est-ce qui veut se lancer en premier dans le bain? Tiens, Jimmy, tu me regardes.
Et bah, et moi, je ne me regardais pas, c'est faux,
si,
totalement
si,
faux.
Tu me regardais.
Alors en fait, non, moi, j'ai pas trop hésité parce que j'ai pris celle de Police Fédérale Los Angeles de William Friedkin. Donc il avait déjà fait une course poursuite assez célèbre, qui était celle de French Connection.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant dans celle-là, c'est que c'est presque le négatif de celle de French Connection, parce que celle de French Connection, c'est plutôt une course-poursuite assez physique, viscérale, et celle-là elle est un petit peu plus cérébrale, enfin elle est un peu plus pensée pour le film, et en gros ce qui est, bon bah l'histoire c'est pour ceux qui la connaissent pas, donc on a deux flics qui sombrent petit à petit dans la corruption et dans le mal et en fait cette course-poursuite c'est ce qui va servir de passage en fait aux deux personnages pour passer de leur personnage de flic à passer du côté obscur simplement quoi.
Oui.
Et en gros, ce qui est pas mal, c'est que donc il y a une inversion des rôles, des rôles pendant la poursuite. Donc ils partent. C'est le moment où justement ils commencent vraiment à sombrer dans le truc. Et à la fin, c'est vraiment les mauvais de l'histoire, quoi.
Enfin, oui.
Alors le truc évidemment en plus, c'est que le rythme, et le découpage de la course-poursuite est assez incroyable également. Elle est assez longue, je crois qu'elle dure 7 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est, bon, bah, outre le fait que c'est évidemment c'est chorégraphié au millimètre,
oui,
il y a une progression, etc. Il y a des apparitions d'épreuves complètement délirantes, il y a des fenouilles, des camions, etc. Il y a le morceau de bravoure de la course-poursuite, c'est un moment où ils sont en contresens sur l'autoroute de Los Angeles. Et en fait, ben, ce passage en contresens, justement, c'est ce qui est un peu important dans le truc, c'est que ça a pris, enfin, la course aussi a pris 6 semaines de tournage en tout,
ouais.
Et dont une grosse partie pour cette partie en contresens, et ça a explosé le budget, je trouve que ça a explosé le budget de quasiment 1 million en fait. Bon, après on va voir si c'est pas à cause de cette course poursuite que Friedkin après a eu du mal à faire quelques films.
Oui,
voilà quoi. mais et en plus ce qui est marrant, c'est qu'il a eu, enfin marrant, ça colle bien avec le personnage de Friedkin, c'est qu'il a eu l'idée de la course poursuite. Il a eu l'idée justement de ce passage à l'envers, enfin en contresens, en revenant d'un mariage où il s'est endormi au volant et il s'est retrouvé à contresens sur l'autoroute. Et donc voilà, moi je pensais que c'était quand même
ça lui colle assez bien. Ouais.
Voilà, ça va bien, ça c'est bien au personnage quoi. Donc voilà.
Pas mal, David, t'as choisi quoi toi? Boulevard de la mort.
Non mais c'est vrai, ouais, en fait tu le sais parce que je te l'ai annoncé à l'avance. C'est pas que tu lis dans mon esprit.
Non.
J'ai mis Boulevard de la mort parce que en fait pour moi c'est vraiment un film très important. J'aurais pu le mettre dans quasiment toutes les catégories. Je fétichise pas énormément sur les voitures, mais ça c'est un film qui a réussi à me donner un intérêt très particulier sur. Sur l'automobile en elle-même, dans ses caractéristiques, dans la manière de la filmer, dans la forme, dans la couleur de la carrosserie, etc. Enfin, il y a un truc vraiment très sensuel, ce qui est aussi l'objet du film, c'est de faire tout un parallèle entre la conduite, entre l'accident et le sexe. Et aussi la violence et en fait j'aime énormément la poursuite finale qui est en fait en deux parties. Alors, le film lui-même est en deux parties avec deux segments avec des personnages différents et le personnage de Kurt Russell qui traumatise des jeunes filles avec une une voiture de cascadeur. Et en fait, dans la deuxième partie, on a une longue course-poursuite qui commence en fait avec une séquence où c'est Kurt Russell qui poursuit les filles qui sont en train d'essayer de faire justement une cascade en voiture, oui, avec Zoé Bell qui monte en marche sur le capot de la bagnole. Et donc on a vraiment une séquence hyper impressionnante. Et en fait, dans la deuxième partie de la course-poursuite, une fois qu'elle est qu'elle re-rentre dans la voiture, moi c'est vraiment la deuxième partie qui me plaît le plus, où il y a un certain nombre d'idées de mise en scène et de manière de dynamiser la séquence que je trouve assez super. Il y a un moment où en fait la course-poursuite se poursuit un petit peu dans les champs, il traverse un pré avec des vaches, et il y a un plan, en fait la musique s'est arrêtée, il y a quasiment plus de son, on observe avec un panoramique très lent les voitures passer au loin. Et en fait, ensuite, le montage se réaccélère et il y a vraiment ce petit moment où les deux voitures prennent un tremplin pour retrouver la route. Et pile à ce moment, dans le montage, la musique reprend et il y a un truc vraiment jouissif dans ce passage de la course-poursuite. Voilà, pour moi, c'est Tarantino, en fait, a abordé ce film avec un peu en fait comme Friedkin à l'époque, en tout cas avec l'ambition de faire la meilleure course-poursuite, ou le meilleur film de bagnole possible. Friedkin le faisait en réaction avec la poursuite de Steve McQueen dans Bullitt.
Oui, aussi.
Je trouve que c'est une dynamique de performance qui, en tout cas, fonctionne pour ce genre de cinéma. Et c'est un truc un film qui m'éblouit, que j'ai vu 6 fois au cinéma et que j'adore vraiment.
Nom de Dieu.
Voilà.
Nom de Dieu. Stéphane, tu l'as vu 6 fois, toi aussi, Boulevard de la Main au cinéma?
Non, mais j'avais vu 2 fois. J'avais bouffé beaucoup. Ça fait partie des Tarantino qui sont un peu décriés, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je préfère même largement ça à Inglourious Basterds, par exemple, qui était plus populaire après, quoi. Moi, ma course poursuite, alors c'est pas vraiment une course poursuite, c'est plus une course contre la montre en fait. Ouais. C'est celle de Die Hard 3, c'est la scène du taxi qui est assez particulière en fait, qui est assez spéciale, parce que déjà en fait, McTiernan rentrait plein pied en fait dans son changement de forme en fait, qu'il avait déjà plus ou moins amorcé dans la Section Hero, notamment d'ailleurs dans la scène de poursuite de la Section Hero, ouais, mais qui était une parodie de scène de poursuite. Et en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'il l'a ramené à un degré beaucoup plus réaliste. En jouant sur les zooms et tous ces trucs-là. Et en fait, l'idée, c'est que le personnage de Bruce Willis et de Samuel Jackson doivent traverser, je crois, une soixantaine de blocs en 30 minutes dans New York. Sachant que, en gros, New York, c'est littéralement l'endroit où tu peux pas avancer en bagnole, c'est bourré d'embouteillages tout le temps. Ce qui est le cas à Los Angeles aussi, mais c'est quand même beaucoup plus une ville voiture que New York dans l'absolu, quoi. Et en plus, ce taxi, c'est quand même une bagnole assez iconique de la ville de New York. Voilà, c'est ça.
Le taxi bloqué dans les bouchons.
Voilà, exactement. Et le truc, c'est que ce qui est super fun en fait dans cette scène en question, c'est que déjà en fait, comme d'habitude chez McLaren, on voit les personnages réfléchir littéralement au fur et à mesure où ils avancent où ils vont mener leurs actions, quoi. Et donc un des premiers moments clés de cette, parce qu'elle est en 2 temps surtout, cette poursuite, cette course poursuite contre la montre, c'est le moment où ils traversent le parc, donc Central Park. Et donc en fait, toute l'idée, c'est de te montrer encore une fois aussi le panorama de New York d'une certaine manière. Et c'est même une des grandes phrases de Bruce Willis en fait, dans un moment où le mec il dit, si on passe à travers la route du parc, en fait on va juste gagner 3 blocs. Et l'autre il dit non, j'ai dit à travers le parc. Et donc t'as toute la poursuite à travers le parc qui est assez fun, où il largue littéralement en fait tous les autres flics qui le suivent en cours de route. Et la deuxième partie, c'est une partie où pour justement en fait, parce qu'il y avait à cause des embouteillages, pour justement s'éviter en fait d'être coincé, ils appellent une ambulance, ils simulent une fausse urgence, et en fait ils se mettent à poursuivre l'ambulance comme s'ils étaient en train d'attraper un ballon de foot pour arriver au but. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est assez incroyable parce que c'est bourré d'effets numériques invisibles en fait, ce qui était à l'époque, c'était 2 ans après la révolution Jurassic Park, et du coup en fait toute la mise en scène était construite à travers en fait la façon d'arriver à masquer toutes les cascades et la façon dont elles allaient se mettre en place pour que ça soit totalement fluide. Et c'est ce qui se passe en fait dans cette scène aussi. Il y a énormément de plans où tu vois que c'est Bruce Willis au volant, même si évidemment en gros c'était juste une bagnole un peu trafiquée, et puis c'était un cascadeur qui conduisait derrière, mais il masquait tout ça en fait, et il masquait notamment voilà.
Ah, c'est les conditions du direct. Hein.
Voilà. Il masquait tous les grands moments en fait où ils évitent des bagnoles de justesse.
On en a évité une aussi, il y a pas longtemps, de justesse.
Et ce genre de choses. Donc ça fonctionne super bien, et surtout ça. c'est, ça met en fait littéralement le spectateur dans le mood du film, qui est que le film ne s'arrête jamais. Oui. Il y aura, ça fait partie d'un des nombreux travaux de Bruce Willis dans le film, en fait, des nombreuses quêtes qu'il va devoir faire, quoi. Et ce qui est super intéressant là-dedans aussi, c'est que moi, je suis quasi persuadé que la formule GTA, en fait, a été créée à travers cette,
sur cette poursuite, voilà. cette dérive dans New York.
Les logiques de fetch quest, en fait, que tu peux avoir dans les jeux, en fait, on te dit va d'un point A à un point B pour faire les choses dans GTA. Je pense qu'elle vient vraiment de cette scène et même du film, en fait, de manière générale, quoi.
Bonne théorie. Vous souscrivez ? Non, personne ne joue.
Si, joue pas à GTA.
Si, David souscrit et Jimmy ne sait pas de quoi on parle.
GTA.
Et tu chercheras.
Le Ron Howard.
Je sais très bien ce que c'est. J'ai même joué au tout premier.
C'est ah, ça. C'est bien.
On écrasait les sectes.
Vu qu'on a vu la meilleure, on va passer tout de suite à la pire. Hein. Course poursuite. Et Stéphane, je te laisse le mic. Hein, du coup, toi, tu as choisi carrément Tekken 3.
Bah, Tekken 3, c'est quand
déjà, même. Déjà, je suis heureux de savoir que tu as vu Tekken 3.
Ouais, oui. Bon, beaucoup de monde a vu Tekken 3.
Non, mais que toi,
c'est très difficile quand même de se rappeler quelle est la pire course poursuite. Parce qu'en général, tu as tendance à les oublier.
C'est arbitraire.
Voilà. Là, celle de Tekken 3, c'est l'inverse total de celle de Police Fédérale Los Angeles dont on parlait tout à l'heure, Jimmy, puisque c'est littéralement, c'est pareil, c'est sur une autoroute de Los Angeles, t'as, comment il s'appelle, Liam Neeson qui est à l'arrière d'une bagnole de police, et c'est donc la scène, enfin le film est réalisé par Olivier Mégaton, voilà, un grand réalisateur français. Voilà.
Grand nom du cinéma français.
Exactement, qui avait aussi fait, je crois, le Transporteur 3, ce genre de choses.
Grand film.
Voilà, et en fait, ce qui est assez fou avec cette scène, c'est que je crois qu'il n'y a pas un seul plan qui dépasse la seconde. C'est-à-dire, ils sont tous millimétrés à une seconde près, et du coup, ça devient littéralement. Pourtant, c'est assez simple. Hein. Normalement, je pense que si tu la découpes un petit peu, tu la regardes. C'est juste quelques bagnoles de flics qui poursuivent cette bagnole-là quand lui, il essaye de s'échapper, et ça crée un espèce de carambolage. Sauf que le problème, c'est que tu comprends littéralement rien, non seulement à cause du montage hypercut dont il est il le fait pas que dans la poursuite, hein, il le fait tout le temps dans le film, quoi, mais en plus tu ne comprends rien parce que c'est d'un seul coup le découpage se paume. Moi, il y a un carambolage de camions, et quand tu regardes la scène, t'as l'impression qu'il se passe derrière eux, et en fait il se passe devant eux, donc il manque de le percuter, et c'est littéralement incompréhensible, quoi. Donc c'est voilà, et puis bon, enfin c'est pas seulement que le film est cut aussi, c'est que les plans sont moches, que la scène est vraiment pas écrite, pas terrible, donc voilà, donc je sais pas si c'est la pire, il fallait en choisir une, tu vois, on n'avait pas le droit de parler de Fast and Furious.
Non.
Il a fait un truc un peu similaire dans le Transporteur 3 avec une poursuite en VTT, je crois, donc, qui était pareil, un peu ridicule avec Jason Statham.
C'est toute son œuvre que tu veux saluer ici.
Écoute, exactement, je cite les grands artistes.
Son don pour filmer les choses en mouvement. Voilà. Très bien. David, toi, tu as choisi une grande œuvre aussi.
Hein. Oui, non, mais j'avais le même problème que Stéphane, c'est-à-dire que vraiment les pires ou les mauvaises scènes de poursuite, on a tendance à les oublier forcément, mais du coup j'ai cherché une qui était un peu ridicule, même si là c'est volontairement ridicule, c'est dans 22 Jump Street, il y a une course poursuite en fait entre un Hummer et les héros Channing Tatum et Jonah Hill sont dans une sorte de caddie en forme de casque de foot américain et électrique, donc qui se traîne forcément un peu. Je trouve que c'est une assez bonne idée de comédie, mais en fait quand tu regardes la scène, elle est construite de manière assez pauvre. En fait, enfin, il y a pas beaucoup d'idées. Il joue beaucoup sur le fait d'exagérer sur les destructions faites par la voiture qui les poursuit. Dans la mise en scène, ça manque un peu de relief. Je crois que c'est dans le premier qu'il y a une course poursuite plus rigolote, plus réussie, en fait, entre deux limousines, avec la meuf qui fait la fête par le petit trou ouvrant, ce genre de choses. C'était pas super mémorable, et c'est assez ridicule comme scène.
Très bien, très bien, très bien. Jimmy, toi, tu fais un choix plus radical. Hein.
Ouais, j'ai choisi vraiment.
Vanishing Point.
C'est pas le Vanishing Point de Richard Sarafian.
On a eu peur. Hein.
non, c'est le remake de 97 que peu de gens connaissent.
Non, bah,
qui est à la base même un téléfilm, un direct to vidéo de Charles Robert Carner, donc qui a fait que des téléfilms. J'ai regardé sa filmo, c'est assez catastrophique. Alors, ce qui est marrant, c'est déjà, c'est rien que quand on voit la distribution, c'est Viggo Mortensen qui joue le rôle de Kowalski. Et qui ne boit pas et qui ne se drogue pas, donc déjà un petit souci. Et le rôle du DJ, enfin l'animateur radio qui dialogue avec lui, est tenu par Jason Priestley, qui est Brandon dans Beverly Hills.
Oui, bien sûr.
Donc en gros, voilà, déjà là, il y a déjà tout le désastre, il est sur le papier déjà. Et en fait, c'est vraiment un film de bagnole qui n'a
quasiment pas de bagnole déjà, il n'y a vraiment aucun sens. Et en fait, ce qui est marrant, enfin, un peu triste, c'est qu'en 97, quand c'est sorti donc directement en VHS aussi.
J'imagine.
Voilà, et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, le vrai Vanishing Point était assez difficile à trouver, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans la folie du DVD, des rééditions et tout ça. Et donc, ce truc-là était disponible dans les vidéoclubs, avec une jaquette qui était un peu.
70s.
Ouais, pas 70s, mais un peu anonyme, un peu passe-partout.
Ah,
quoi.
Oui.
Et du coup, plein de gens l'ont chopé en disant
pensant,
mais c'est ça le fameux film, cette merde. Et du coup, bon, voilà. C'est assez rigolo, mais c'est surtout pour limite dire aux gens qu'il existe et qu'il faut faire attention.
Attention, ne vous trompez pas, n'achetez pas le mauvais. Du coup, Jimmy, je suis désolé, ça va rester sur toi pour la pire catégorie, je pense, de toute cette liste.
Eh ben,
la meilleure scène de sexe en voiture.
Figure-toi, moi, c'est l'une des plus simples.
C'était le plus simple pour toi.
Alors, il y a une raison aussi. Mais
toi, tu as choisi le Drive-In de l'enfer. Alors, déjà, je ne savais pas que ce film existait.
Alors, en fait, c'est un film de Brian Trenchard-Smith. C'est un routard du bis australien qui a fait vraiment pas mal de films, plutôt pas mal. Il a fait Les Traqués de l'an 2000, qui est un espèce de post-apo assez violent. Il a fait Le Gang des BMX avec Nicole Kidman, qui est son premier rôle. Elle est, je crois que c'est son premier rôle, hein, enfin un des premiers. Et il a fait
Mon curé chez les koalas, que des trucs cool.
Non, il a fait un super film qui s'appelle La Rage de la Casse, qui s'appelle Stunt Rock en VO. Et c'est un film complètement délirant sur un cascadeur qui va aider un groupe de rock occulte à leur faire des pyrotechnies sur scène.
Tu les inventes?
Non, on les invente pas du tout. Il va les aider donc à faire les pyrotechnies de leur concert, et en fait ils se font eux-mêmes choper par un sorcier qui va essayer. Enfin, c'est un truc délirant, quoi. Faut le voir, Stone Rock, La Rage de la Casse. Et celui-là en question s'appelle le Drive-In de l'enfer, et en fait sorti en 86. Et en gros, ce film, c'est un film post-apocalyptique aussi, mais il est dans un truc temporel un peu bizarre pour un film post-apocalyptique, c'est-à-dire que les films post-apo, ils sont généralement, ça se passe avant l'apocalypse ou après.
Ouais,
quoi.
Ouais, bien après.
Là, celui-là, c'est sur une période un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils bossent, ils sont à manger, ils vont chez eux, ils font du jogging. Et en même temps, ils ont des punks dégénérés qui leur courent après dans des chars d'assaut et qui leur tirent dessus, quoi. C'est assez. Donc voilà, il y a un truc, un peu une vie quotidienne un peu bizarre qui se fait, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le héros donc pique la Cadillac de son grand frère pour aller emmener sa copine au drive-in voir un film. Sauf qu'il va pas dans n'importe quel drive-in, il va au drive-in de l'enfer. Et le drive-in de l'enfer, c'est un drive-in dont le truc, c'est que c'est un peu ils ont pris un peu l'idée de Mad Max 2, c'est-à-dire qu'à la place de l'essence, des pénuries d'essence et du trafic d'essence, c'est les pièces détachées.
D'accord.
Voilà. Et en gros, au drive-in pendant la nuit, pendant regarder le film, ils se font piquer leurs pneus.
Oui.
Et du coup, en fait, ils se rendent compte, ils disent on va rester là dormir, on verra demain matin. Et le lendemain, ils se rendent compte que le drive-in est une espèce de ville où les gens qui se sont fait coincer dans le drive-in habitent, et ils essaient d'en sortir. Et du coup, son truc, ça va être d'essayer de sortir de la ville pendant que sa copine, elle, en fait, elle devient pote avec les gens du drive-in. Et en fait, elle rentre dans la communauté, en fait, alors que lui veut en sortir. Enfin, c'est assez marrant comme film, c'est vraiment hyper bien. Et donc, il y a une petite scène de sexe, en fait, parce qu'évidemment, ils vont pas regarder le film, ils viennent pour baiser. Et il y a une scène assez chouette, qui est assez crue, et en même temps qui est. C'est un peu comme quand on pouvait regarder les films X codés sur Canal dans les années 90, où on voyait mais on voyait pas, quoi.
Oui.
Et là c'est pareil, on voit que c'est assez cru quand même.
C'est l'ancien cryptage quelque part.
Oui, voilà, parce que je crois que ça n'existe plus maintenant.
J'étais une passoire devant l'écran.
Alors toi, ça c'était un truc j'ai jamais essayé.
Légende urbaine.
Je pense que c'est une légende urbaine. Il y avait aussi des gens qui clignaient des yeux, qui tombaient dans les pommes.
Ils sont devenus épileptiques. Enfin, c'était le bordel.
Enfin bref, c'est un truc comme ça. Ça se passe à travers le pare-brise avec de la pluie qui coule par-dessus, donc c'est à la fois assez évident, mais en même temps, voilà, c'est un peu brouillé. Et en fait, le truc marrant, c'est que moi, je l'ai vu. J'essaie de faire vite sur l'anecdote, mais elle est assez drôle quand même.
Elle est bien.
Est-ce que tu l'as vu à l'étrange festival en présence du réalisateur?
Non, pas du tout. Non, au contraire, moi, je l'ai vu très, très, très tôt. En fait, c'était vraiment juste après la sortie, puisque c'était en 87, je crois. C'était un été au Portugal, et en fait, mon éducation de film et de musique se trouvait par trois cousines qui étaient vraiment hyper délurées et hyper délinquantes, quoi. Enfin, c'était vraiment. Elles avaient le look de Madonna à cette époque-là. C'est-à-dire le bracelet à clous, les
gens en période jeune fille cherche appartement.
Ouais, Who's Bad Girl et tout ça.
Ouais,
recherche Suzanne Desparent. Voilà, exactement.
Ouais, c'est ça, Recherche Suzanne Desparent.
Ouais, c'est pas tout à fait le même film.
C'est pas le même film.
Et en gros, c'était ces gens de nana qui faisaient le mur, sortaient avec des mecs beaucoup plus vieux, écoutaient Billy Idol. Enfin, voilà. Et en gros, elles avaient un magnétoscope Betamax. Elles m'ont fait voir plein de films, et il y en a trois qui m'ont traumatisé dans ce qu'elles m'ont montré. Il y avait le premier Rambo, Force de Ranger Diabolique de Bava, et celui-là, le Drive-In de l'Enfer. frère. Et en fait, donc on l'avait rematé avec toutes mes trois cousines, plus deux cousins qui étaient là. Et en gros, on l'a maté le film, et il y avait cette scène de cul qui m'a assez marqué, puisque j'en parle aujourd'hui. Et en fait, à un moment,
30 ans plus tard.
Le film est terminé, c'est super, on se barre, enfin, on va dehors, je sais pas quoi, vaquer nos occupations. Et en fait, il manquait un de nos cousins. Quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il fout, où est-ce qu'il est passé? Moi, je suis retourné dans la maison. Non, ça va pas jusqu'à là. Rassure-toi. Et en fait, le truc, c'est que bon, là-bas, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que les salons sont souvent en hauteur, les chambres en bas à cause du climat. Et donc, je cherche partout dans les chambres, je le trouve pas. Et je vais dans le salon. Et en fait, il est en train de se mater en boucle, en mettant en rewind la scène de cul. Quoi. Et je suis arrivé, j'étais surpris. Et il y a que nous deux qui savons ça, en fait. Et aujourd'hui, je le revois. Et
oui, maintenant.
Maintenant, c'est trop tard. Et des fois, on se revoit, vu que j'y retourne encore assez régulièrement. Et j'ai toujours l'impression que quand on se voit, la première chose, c'est genre, tu sais que je sais. Et tu sais que. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, ça m'est venu forcément tout de suite. Quoi. Et c'est un super film en plus. Voilà.
D'accord, très bien. Même quand on ne connaît pas ton cousin.
Il était très propre, il n'a rien fait. Hein.
David, toi t'as choisi.
Bah moi c'est un film que j'ai vu sans cousin, sans cousine,
mais
qui est très bien quand même. Non, moi en scène de sexe en voiture, alors ça, le film c'est Crash de David Cronenberg. C'est un film très particulier qui est un petit peu un tournant dans sa carrière aussi, qui est peut-être le moment où il va finir de s'extraire du cinéma de genre pour être plus dans le cinéma d'auteur et le cinéma de festival. C'est un film qui, je crois, avait été primé à Cannes, prix de la mise en scène, il me semble, l'année où il avait été présenté. Mais c'est un film que moi j'aime vraiment beaucoup, dont l'idée de fond, en fait, c'est de c'est d'ailleurs ce que je disais déjà sur Boulevard de la Mort, c'est de faire ce parallèle entre le sexe, les fantasmes et l'accident.
Oui.
Et en fait, on a des personnages, notamment le personnage de James Spader, qui a un accident au début du film, qui développe une libido, une sexualité qui est liée vraiment à l'accident. Oui. Il rencontre un certain nombre de personnages qui partagent la même chose, une sorte de kink pour les cicatrices, etc. Il y a pas mal de scènes de sexe dans le film, et il y en a une qui sort un peu du lot, en tout cas dans la logique de scènes de sexe en voiture. C'est une scène de sexe entre Deborah Karaunger et Elias Costeas à l'intérieur de la voiture dans un lavoto.
Dans un lavoto, ouais.
Et donc en fait, James Spader est au volant, il avance la voiture dans le lavoto, donc tu filmes la voiture sur plein d'angles, la scène de sexe qui est extrêmement crue. Elias Costeas, il est suintant, il est dégueulasse. Oui. Enfin,
il est assez impressionnant.
Son personnage, il est vraiment, vraiment, enfin, à la fois flippant et à la fois complètement fascinant. En fait. Et donc, on suit vraiment. C'est une scène de sexe qui est, pour le coup, à mon sens, au bon sens du terme, vraiment traumatisante. Il y a vraiment un truc qui se passe qui fait que tu vois plus un lavoto de la même manière après ça.
Plus jamais tu ne laves ta voiture pour un lavoto. Stéphane.
Alors moi c'est pas la meilleure scène de sexe, ni même le meilleur film, ni même le voilà. C'est une scène qui est même pas particulièrement bizarre, si ce n'est peut-être dans un film d'action de cette époque-là, puisque c'était censé en être un. C'était un film qui s'appelait The Chase avec Charlie Sheen, réalisé par Adam Rifkin. Qui en fait un film tout qui est sorti, je crois, à l'époque au même moment quasiment que Speed. Donc tout le monde a plus ou moins fait un comparatif. En français, ça s'appelait À toute allure.
Ah, c'est le film avec Henry Rollins.
En flic qui le poursuit, voilà.
Exact.
En fait, moi, j'attendais un petit peu le film à cause du réalisateur Adam Rifkin, parce qu'il avait fait un petit film culte en flic qui s'appelait À plein tube, qui était un peu bizarre. C'était l'histoire d'un mec qui était stand-up comédienne et qui était nul à chier, et il avait un bras qui lui poussait dans le dos, et d'un seul coup, en fait,
ça ressemble au film de Jimmy un peu.
Voilà, il se mettait à raconter ça sur scène, et ça devenait un succès un peu bizarre, un fric, c'est tout quoi. Donc je me disais, tiens, ce mec, il va peut-être faire un truc un peu sympa, un peu intéressant avec ça, mais pas vraiment. En fait, c'est vraiment un truc assez basique où Charlie Sheen, en gros, s'échappe de prison et prend une nana en otage en bagnole, et il fonce vers le Mexique, il a tous les flics qui lui courent derrière. Et ça devient un truc où les deux tombent amoureux. C'est l'autre, la nana, c'est à l'époque très jolie Kirstie Swanson, qui était la toute première Buffy dans le film Buffy.
Oui, exactement. Voilà. Oui.
J'ai toujours préféré dans l'absolu à Sarah Michelle Gellar, quoi. Et en fait, c'est juste une scène où ils continuent à rouler, et donc ils font. Elle monte sur lui, sur le siège.
On avait compris.
Voilà, et en gros, ils font l'amour.
Mais
avec,
en roulant,
et avec à un moment donné, en fait, comme c'est assez stylisé, tu vois, un fond de coucher de soleil un peu. en contre-jour hein, qui rend la scène limite t'as l'impression que ça pourrait être un boulard mais sans les gros plans quoi. C'est une scène qui est un petit peu autre en fait dans ce genre de film parce que voilà, mais en même temps c'est un film assez basique et je sais pas pourquoi, c'est probablement le seul truc dont je me rappelle film.
C'est la seule
et quand tu m'as dit scène de sexe dans une voiture, j'ai fait hop, c'est ressorti du fond de tiroir et voilà quoi.
Voilà, bon,
je n'ai jamais revu le film hein.
Non mais j'imagine. Alors par contre, pour le meilleur accident ou explosion, t'as choisi un film que j'imagine tu as vu plusieurs fois et qui pour le coup est un vrai monument pour moi, à mon sens en tout cas, c'est les Blues Brothers.
Ouais, enfin c'est voilà, là tu parles de carambolage, de cascade, enfin d'accident de bagnole, bah t'as littéralement c'est la même
voiture,
la même logique en fait, c'est Jake et Elwood qui sont poursuivis pendant une bonne moitié du film par toutes les polices de Chicago et sur littéralement toutes les États-Unis, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, à la fin ils arrivent. C'est quoi la ville où ils arrivent? C'est pas Los Angeles.
Non, c'est Chicago.
Ouais. C'est Chicago. Ah bah, je sais plus d'où ils partaient, mais bref, voilà, ils ont fait un peu le tour des États-Unis, quoi. Et t'as notamment ce carambolage complètement dingue
en plus il y a les cowboys et les nazis qui les
voilà, parce que tout le monde commence à les poursuivre. En fait, t'as un carambolage complètement dingue où t'as mais je sais pas combien de bagnoles qui s'empilent, qu'on a essayé de refaire en France chez nous dans un grand film aussi. Ah, vous voyez pas ce que c'est?
Taxi 5?
Non, Les Anges Gardiens.
Ah, Les Anges Gardiens.
Il avait littéralement, Jean-Marie Poiré avait littéralement essayé de refaire cette scène, quoi.
Exact. J'ai vu au cinéma.
Voilà. Et donc, en fait, mais évidemment, il y avait 10 fois moins de bagnoles.
Oui,
voilà. Et puis, il y a ce moment complètement absurde, en fait, parce que c'est ce que fait en général, et surtout à l'époque John Landis, en fait, où t'as d'un seul coup la bagnole des nazis qui se retrouvent à faire une espèce de carambolage pas possible et se retrouver dans le ciel
avec les deux mecs qui sont côte à côte et qui disent je vous ai toujours aimé.
Voilà, exactement. Voilà. Et donc, c'est assez énorme à voir parce qu'il y a un abattage, en fait, complètement dingue, quoi. Et le petit bonus, en fait, que j'avais rajouté.
Oui, t'avais rajouté un bonus.
Parce que c'est une explosion de bagnole qui m'a toujours impressionné quand j'étais gosse et du coup j'en suis resté là. C'est la première explosion de bagnole dans Le Dernier Samaritain.
Tout à fait.
Où là, Tony Scott, il n'y avait que lui pour faire des explosions comme ça, et où la bagnole est littéralement soulevée sur place en fait et retombe et plie en deux. J'ai toujours trouvé cette explosion magnifique.
Oui, voilà. Elle est très impressionnante. Un peu surprenante.
Elle est très surprenante aussi avec la scène qui précède.
Qui est une scène pas du tout dans plus ce plus vaudevillesque, on va dire, mais qui
vaudevillesque, c'est une scène de film noir où
c'est pas vaudevillesque, mais ce que je veux dire, c'est l'amant dans le placard.
Oui, voilà.
Tu t'attends pas à ce que la bagnole explose.
Mais ça, c'est Shane Black, les gars.
Shane Black, Tony Scott, les meilleurs. David, toi tu as choisi, on change de
registre.
Faut profondément de registre, oui, puisque tu as choisi Les Choses de la Vie.
Oui, bah, les Choses de la Vie de Claude Sautet, ça commence avec un accident de voiture.
Tout à fait.
Qui est du coup hyper important dans le film de Michel Piccoli, qui est en fait déjà dans le bouquin qui a été adapté pour le film, l'accident de voiture était décrit de manière hyper détaillée, hyper précise, et on est vraiment dans la même logique dans le film, où en fait tout l'accident, qui est un accident un petit peu complexe avec deux camions qui sont rentrés dedans au milieu de la route, et en fait la sortie de route, enfin la tentative de Michel Piccoli d'éviter le crash, et puis tout ce qui suit en fait est très détaillé et est fait au ralenti avec énormément de plans. Le tournage de la scène a duré je crois une dizaine de jours, et c'est vraiment très élaboré, c'est-à-dire qu'on voit tous les détails de l'accident, comme aussi, enfin c'est quelque chose qu'on entend souvent dire en fait, que quand on a un accident on voit un peu les choses se passer au ralenti et du coup on le vit vraiment intensément. Et je trouve ça hyper réussi et hyper intéressant. C'est quelque chose qui peut-être s'est un peu perdu dans le cinéma français, mais qui était une des grandes forces de Claude Sautet, c'est que même dans des films qui sont des drames humains, et des films vraiment sur les personnages, sur leurs relations, etc., quand il avait besoin de filmer quelque chose de physique ou une scène d'action, entre guillemets, je pense aussi aux scènes de boxe de Depardieu dans Vincent François, Paul et les autres, il le faisait avec... énormément de détails, de passion et d'intérêt, et ça donne pour moi une scène qui est vraiment monumentale et qui revient un peu par moment dans le film, qui est extrêmement soignée, extrêmement travaillée, et par ailleurs c'est un film génial que j'encourage à voir.
Et t'as bien aimé le remake ?
Merci. C'est qui a fait le remake ?
Intersection avec Richard Gere.
Voilà.
Et Charlotte Stone.
Les remakes avec Richard Gere, François Fier.
Oui, bah, c'est 25 ans après.
Est-ce qu'il y a un remake australien, Jimmy, qui s'appelle L'Intersection de l'Enfer ?
Non, comme non, ça, non.
Où deux mecs ont le même accident pendant, je sais pas, 18 fois.
Non, je ne crois pas, je ne sais pas.
Ça peut exister. Je suis sûr que ça peut exister. Moi, toi, t'as choisi Demolition.
Ouais, alors je suis allé sur un autre créneau.
On est vraiment, c'est multi-support. On passe de Claude Sautet à Demolition.
Je suis pas allé dans le spectaculaire ni dans l'émotion. Je suis allé dans vraiment le
basique.
Basique et gaguesque un peu. C'est que, en fait, moi j'adore ce film, évidemment, comme j'imagine pas mal de monde.
Qui ne l'aime pas.
Et j'aime surtout ce film parce qu'il y a une. Comme pas mal de films il y a pas mal de films dans cette catégorie-là, mais j'aime presque autant en VF qu'en VO parce que la VF, je trouve ça très assez réussi. Et là, c'est juste une toute petite scène, elle n'est pas très spectaculaire, mais c'est juste. Donc Stallone arrive dans le futur, etc. Et à un moment, il a une hypo, doit poursuivre quelqu'un en voiture. Et c'est une espèce de voiture du futur avec des commandes bizarres. Et évidemment, à un moment, il perd le contrôle de la voiture. Et la voiture part dans le décor. Mais en s'envolant, en fait, en partant dans le décor, il gueule. En français, c'est génial parce qu'il fait putain de bagnole de merde. Et en fait, le merde, c'est s'étend comme ça pendant longtemps. Et ça, à chaque fois que je le regarde, je sais très bien que la scène arrive, je sais très bien ce qu'il va dire, ça me fait toujours hurler de rire. Quoi. Et je sais pas, j'adore cet accident. Ouais. Okay. Et en plus, c'est un super film. Faut quand même redire que c'est un super film. Mais il y a quand même une vision du futur qui est assez proche de celle qu'on vit en ce moment.
C'est vrai. Et sans coup férir, on va passer au meilleur chauffeur. Et toi, t'as choisi évidemment.
Instinctivement, j'allais dire Mel Gibson dans Mad Max 2. Mais en même temps, j'aurais pu répondre Mad Max 2 presque à tout chaque.
Oui,
chaque
parce truc. Que c'est ton film préféré.
Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, je vais plutôt prendre le contre-pied et laisser les vrais bons pilotes à mes collègues. Moi, j'ai préféré des chauffeurs un peu dans un autre style, un peu plus froid, un peu plus lent et un peu plus tordu. Donc, j'ai pris Dennis Hopper dans Blue Velvet et Christopher Walken dans Comme un chien enragé. En fait.
Ah, tu me l'as pas mis, ça ?
Ah, bah si, mais je rajoute, mais c'est juste c'est vite fait, quoi. C'est juste qu'en fait, c'est des scènes que j'aime bien, c'est des scènes de c'est des scènes où un malfrat emmène quelqu'un en balade et le bute, quoi. Enfin, où il fait en tout cas très mal, puisque dans Dennis Hopper, dans Blue Velvet, Dennis Hopper emmène Kyle MacLachlan en virée. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur passage du film, qui est assez long en plus, où il l'emmène chez Dean Stockwell. Ensuite, et il y a toute une scène qui se passe dans la voiture où Kyle MacLachlan en plus se permet de mettre un pain à Dennis Hopper.
C'est vrai. Peu de gens peuvent s'en vanter.
Ouais, et puis en plus, surtout avec son personnage qui est psychopathe, tu sais que si tu le touches, il va te triper. Et après, il est laissé pour mort dans un coin, dans une scierie. Et Christopher Walken, il a un rôle un peu similaire dans Comme un chien enragé, qui est un film que j'encourage les gens à voir parce que peu de gens l'ont vu finalement.
Oui, c'est assez peu connu.
Et où il joue le rôle de père de Sean Penn, où il se retrouve et le père est un malfrat. Enfin, Walken est un malfrat, mais bon, on se rend compte au fur et à mesure du film que c'est plus qu'un malfrat, c'est vraiment une grosse ordure, un tueur, etc. Et justement, la scène de voiture en question, il emmène un type qui est accusé d'avoir balancé. De l'avoir balancé au flic et il va carrément le noyer dans un lac.
et c'est
pas dans les deux cas, de manière que ce soit dans Blue Velvet ou dans Comme un chien enragé, ces scènes-là, en fait, c'est vraiment le moment où tu comprends que tu as affaire à des psychopathes finis, quoi. Et je trouve que ça se fait assez bien. Enfin, je suis assez fan de ce genre de scène où, voilà, on emmène promener quelqu'un.
C'est pour ça que tu dois être fan des Sopranos, j'imagine.
Oui, ouais, bah oui aussi, mais bon, voilà. Voilà.
Pour ces mêmes raisons. David, toi, tu as choisi, on reste dans le cinéma français, le grand cinéma français.
Moi aussi c'est plus un chauffeur qu'un pilote, et c'est plus pour ce qui dégage. En pensant à chauffeur, j'ai pensé à Belmondo dans À bout de souffle. C'est aussi une manière, en fait, À bout de souffle, de filmer la voiture à l'époque est un petit peu différente. Oui. D'un point de vue technique, de plein de choses. C'est-à-dire que la caméra est du coup à l'intérieur de l'habitacle. Disons que la norme pendant longtemps dans le cinéma classique pour filmer la voiture, c'est de filmer de manière frontale vu du pare-brise, et même souvent dans le cinéma classique hollywoodien, sur une fausse voiture avec un faux décor qui défile derrière, et du coup le comédien qui fait semblant un petit peu de bouger le volant. Là, on est vraiment dans la voiture à la place du passager. Belmondo est beaucoup filmé, soit de la banquette arrière, soit du côté. Godard à l'époque en fait cherche à rompre avec tout ce qu'on est censé faire au cinéma, donc il y a aussi les fameux jump cuts et en fait les phrases que dit Belmondo au début du film. Donc c'est vraiment dans la séquence d'ouverture du film qui est resté célèbre et qui a introduit un petit peu la nouvelle vague. Et puis ces fameuses répliques, si vous n'aimez pas la mer, n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre.
Voilà. Bien. Stéphane, toi, je crois que c'est dans un registre tout à fait différent.
Ah bah c'est totalement à la Godard, quoi. Tu vois, oui. Speed Racer,
c'est un pilote.
Voilà, là pour le coup, c'est un pilote, ouais. C'est un pilote qui a un but, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le personnage. Enfin, moi, je voulais plus ou moins citer le film, hein, en vrai. Donc, je me suis dit, bon, je vais le foutre dans cette catégorie.
Trouver une catégorie.
Voilà, ouais. J'ai cherché une catégorie. Comme Jimmy a pris Mad Max, et qu'en fait, il nous l'a lâché, là, comme ça. voilà. Mais en fait c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve ça assez rare en fait, finalement, les personnages assez jeunes comme ça et qui ont un vrai sens en fait dans le narratif dans le film en fait, qui ont besoin vraiment d'aller de l'avant. Et ce rapport en fait à son frère en fait qui est aussi un grand pilote qui a disparu, et dès la première scène de poursuite en fait c'est un truc qui est mis en place c'est pas une poursuite, c'est une course en fait, c'est un pilote de course. Il doit en fait plus ou moins rattraper le score de son frère en fait, qui est le record quoi, et qu'il n'arrive pas du tout en fait à dépasser. Il fait exprès de pas le dépasser justement parce qu'il veut pas accepter que son frère ait disparu et que c'est peut-être la dernière chose qui reste de lui quoi. Et c'est un truc qui va mener le film jusqu'au bout en fait, un truc que tu ressens et qui je trouve donne dans un film aussi cartoonesque et aussi bariolé en termes de mise en scène en fait, donne une certaine profondeur, une certaine gravité émotionnelle en fait qui fonctionne très bien quoi. Voilà, j'aurais pu citer d'autres pilotes aussi quoi. Belmondo dans le casse pour le coup et pas dans un Godard
de ça, deux ans
bordel mais voilà ouais, c'est c'est un personnage que je trouve assez touchant et qui a une vraie raison de conduire en fait, une vraie raison de piloter quoi.
Mais Belmondo aussi hein, tu sais pas, tu
pour aller à la mer, à la montagne
voilà, ou aller se faire foutre voilà. En l'occurrence on reste avec toi Stéphane, le meilleur accessoire de voiture, toi t'as choisi les ailes de la voiture de Fantomas dans Fantomas.
Ah ouais, mais parce que j'ai pas de fétiche de d'accessoires, les trucs avec les petits dés ou je sais pas qu'on accroche au machin, le sambon, tout ça. J'arrive pas à trouver ça dans les films. Je fais jamais vraiment attention à ça. Je suis sûr que.
Il faut savoir qu'il y a que deux personnes autour de cette table qui ont le permis de conduire. Hein,
voilà. Exactement.
On part de très très loin.
Voilà.
C'est David et moi.
Et
en l'occurrence.
Les vrais darons.
Darons, c'est nous.
Les jeunes, quoi.
Les jeunes.
Donc ouais. Et moi, en fait, quand j'avais vu Fantomas contre Scott Lander à l'époque, à la toute fin, puisque c'est le dernier film qui a été fait, la dernière adaptation qui a été faite à l'époque, le truc qui était assez incroyable, c'était de voir que Fantomas s'envolait avec sa bagnole, il appuyait juste sur un bouton, t'avais les ailes qui s'ouvraient et il s'envolait. Je me suis dit, putain, c'est incroyable, c'est génial. J'avais pas encore vu James Bond à l'époque. Et j'avais peut-être eu un, mais je crois qu'il n'y avait pas encore ça dedans, quoi. Et j'avais trouvé ça formidable. Donc je me suis dit, c'est un accessoire génial. Et toutes les bagnoles devraient en avoir un.
D'accord.
Voilà.
C'est pour ça que t'as jamais passé.
Il n'y a pas de bagnole avec. Ouais, exactement.
T'as jamais passé ton permis. C'était beaucoup trop de déception.
Mon permis pilote aussi.
Voilà. David, tu nous as dit que tu réfléchissais encore tout à l'heure.
Non, mais alors, le pire,
tu m'as pas fourni ta réponse à l'avance.
C'est que c'est moi qui ai suggéré.
Pourtant, c'est toi qui as suggéré cette catégorie.
En fait, je l'ai suggéré en ayant en tête un truc qui est.
Je n'existe pas.
Enfin, voilà. vous voyez ces chiens qui secouent la tête à l'arrière de la bagnole, et je suis persuadé de m'en rappeler dans un film une version détournée de ça, et je n'arrive pas, j'ai googlé dans tous les sens, je n'ai pas réussi à retrouver, donc j'espère qu'un auditeur...
Il a passé 48 heures épouvantables.
Ah non, mais c'est affreux, je dors plus, donc j'espère qu'un auditeur de nos ciné va nous suggérer des trucs.
J'espère.
Et du coup, j'ai trouvé une petite alternative, c'est un faux accessoire de bagnole, et ça aurait pu aussi servir pour la scène de l'accident, et en plus, c'est une scène d'accident qui ressemble, finalement, dans son découpage et dans le ralenti, aux choses de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le pendentif accroché au pare-brise dans Femme fatale. Donc c'est au pare-brise d'un camion, hein, mais oui. Bon, ça marche, et qui provoque un accident à cause d'un reflet dessus. Voilà, c'est Femme Fatale, c'est moi qui suis deux palmistes jusqu'au bout, sans aucun regret, il peut faire tout ce qu'il veut, et je sais que des gens commencent à rejeter à partir de Femme Fatale, ou avant, ou après. Bon, pour moi, c'est un grand film parmi d'autres chefs-d'œuvre, et cette scène notamment est hyper ludique. Enfin, il se passe plein de choses, et sa connexion avec l'ensemble de la structure du film, je trouve, est hyper intéressante. Voilà.
Bien. Pas mal, Jimmy.
Moi, je suis allé chercher tiré par les cheveux. Oui. J'ai pris le coffre dans Repo Man.
Oui, alors, on va expliquer un peu.
En fait, mon Repo Man.
C'est un chèque voiture, je sais que t'as pas ton permis non plus, mais quand même.
Ouais, c'est un film d'Alex Cox, donc, qui était tourné en 84. C'est une espèce de variante en quatrième vitesse de Robert Aldrich, qui racontait déjà une espèce de course-poursuite pour retrouver un contenu d'une mallette qui était un peu. Précieux et supernaturel un peu, et donc là c'est pareil, sauf que ça se passe dans Los Angeles de 84, et c'est des punks, des ripomen, donc c'est-à-dire des huissiers qui doivent récupérer des voitures pour dont les traites n'ont pas été payées, et puis des extraterrestres, des nazis, enfin tout ça, qui veulent récupérer la voiture, une voiture, c'est une Chevy Malibu dans laquelle, en fait, dans le coffre de laquelle on sait qu'il y a un truc, parce qu'on voit dans la première scène la voiture qui est conduite par un espèce de savant fou, elle se fait arrêter par un flic, et donc le flic ouvre le coffre et il se fait désintégrer par un espèce de rayon vert, et donc on sait qu'il se passe un truc avec cette voiture, et donc voilà, et en gros tout le film tourne autour de ça, et un peu comme dans En quatrième vitesse, on sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans, on saura jamais vraiment, et ça laisse pas mal de trucs à l'imagination, mais c'est, enfin ça, voilà, c'était surtout pour parler du film, parce que c'est vraiment un super film, et il y a donc c'est par Alex Cox, et c'est le chef-op, c'est Robbie Muller, donc voilà, on est sur le film est assez chouette, même si ça reste, bon, c'est un film culte. Il y a ce côté un peu branleur, un peu bancal aussi par moment. Moi, c'est un film que j'adorais quand j'avais 18 ans, un peu moins aujourd'hui. Quoi. C'est vrai, c'est vraiment super.
Vous avez vieilli tous les deux.
Ouais, voilà, c'est un peu ça.
L'un mieux que l'autre. Je ne dirais pas lequel. Alors, celle-là a fait beaucoup de jaloux. Cette prochaine catégorie, c'est la meilleure scène de personnage qui chante en voiture. Ça a fait beaucoup de jaloux parce que Jimmy a dégainé sa liste en premier et donc a pu proposer Step Brothers.
Après, ouais, le truc, c'est que moi, c'est la seule que je vois. Donc,
voilà. Et du coup, David et Steph étaient très très jaloux.
Bah ouais, on
voulait tous les deux la citer.
La plus grande scène de l'histoire du cinéma.
Voilà.
Bah ouais, le truc, c'est pareil, c'est comme pour celle de Demolition Man, c'est une scène genre je sais très bien ce qui va se passer, je sais très bien ce qui va arriver, mais ça me fait rire à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, on a les deux Step Brothers, donc Will Ferrell et John C. Reilly, et donc ils ont un autre demi-frère qui a réussi et qui est devenu un mec un peu une espèce de winner absolu. Oui. Et donc il arrive pour leur rendre visite en voiture avec toute sa petite famille, et on sent qu'il est hyper strict, qu'il demande beaucoup à ses enfants, quoi. Il demande beaucoup de réussite et beaucoup de trucs. Et à un moment, donc, il leur dit bon, puisqu'on est là, on va répéter notre chorale, notre chanson. Et en fait, il commence à chanter. Et au début, on reconnaît pas parce que c'est une espèce de truc choral très très vocalise, en canon et tout. Et au bout de, je sais pas, 30 secondes, on reconnaît que c'est Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Et là, ça devient vraiment, on bascule dans quelque chose d'assez hallucinant, quoi. Et enfin, moi, cette scène, je la trouve vraiment hyper bien. Voilà, après, le film, on peut en rajouter, il est super. Donc,
le film est un génie. Il y a des gens en scooter qui passent à côté du stand, c'est n'importe quoi cet endroit.
Il y a un truc qui est assez génial, je trouve, en plus, avec cette scène, c'est que ce qu'elle dit sur les familles américaines, en fait, et comment les mecs le disent, parce qu'il y a une. Je sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo qui avait fait un carton il y a 4-5 ans aux États-Unis. C'était une famille qui avait fait une chanson qui s'appelait Christmas Jammies. Et si vous sur YouTube en fait, et c'est littéralement la famille de Step Brothers en fait, mais en vrai. Donc ça existe pour de vrai, c'est pas exagéré. Et c'est ça que je trouve assez génial avec la scène en plus rétroactivement quoi.
David, tu voulais la mettre aussi.
Je trouve ça un chef-d'œuvre. En plus, moi, j'ai une passion pour les gens qui chantent a cappella dans les films. J'aime beaucoup la série Pitch Perfect pour les mêmes raisons. Et non, mais c'est parce que ça me fait un truc, c'est à la fois ça m'émeut et à la fois je trouve ça hilarant. Donc ça me met dans une sorte d'état de tension bizarre.
Donc, quasi érotique.
Mais du coup, moi, contrairement à Jimmy, c'est aussi un kink particulier, les gens qui chantent en voiture.
Il me semble que c'est toi qui as proposé cette catégorie.
J'en connais plein d'autres. Hein et je vais en citer plusieurs que j'aime bien. Et donc il y en a une notamment à la fin d'Attache-moi de Pedro Almodovar, qui est hyper intéressante parce qu'elle est elle est très ambiguë. Attache-moi, c'est un film sur une relation à la fois d'autorité, enfin extrêmement ambiguë, entre Antonio Banderas et Victoria Abril. En fait, il la séquestre jusqu'à ce que finalement elle accepte elle-même d'être séquestrée. Et enfin, c'est une histoire entre guillemets d'amour, mais vraiment à l'Almodovar et au meilleur d'Almodovar, dans quelque chose de vraiment très 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 ambigu. Et la fin du film, en fait, ils sont tous les trois en voiture avec la sœur de Victoria Abril, qui est jouée par Lolas Leon. Et en fait, il commence Antonio Banderas est sur la banquette arrière et enlace Victoria Abril qui conduit. Et il commence en fait à chanter Lolas Leon et Antonio Banderas chantent en fait du pop rock espagnol. C'est la chanson, elle s'appelle Resistiré, de Duo Dinamico, qui est un groupe de pop espagnol, hein,
qui est la musique de son enfance.
Moi qui ai grandi dans les bas-fonds de Séville, voilà. mais
je connaissais pas cette anecdote.
Par le supuesto, mais bon. Et donc j'aime beaucoup.
Señor Honora.
Je trouve que la voiture, la bagnole, est une caisse de résonance parfaite pour la pop espagnole et pour la pop italienne aussi. Alors juste pour finir sur Attache-moi, du coup c'est assez ambigu, c'est-à-dire que les deux autres personnages chante, il y a une sorte de début de dialogue, on s'inquiète un peu pour Victoria Abril qui parle pas, qui est dans une sorte de sourire crispé, et puis le film se termine là-dessus. Et puis donc je parlais de pop italienne, il y a aussi deux scènes jumelles dans deux films de Nanni Moretti, une dans la chambre du fils et une dans le caïman. Et dans les deux scènes, on retrouve Yasmina Trenka, qui est mon actrice italienne préférée, la plus grande actrice italienne actuellement
de toutes
les actrices italiennes, et qui dans les deux scènes est sur la banquette arrière. Elle a pas mal grandi entre temps, et c'est des scènes qui réussissent à récupérer tout le jus de la pop italienne pour en faire quelque chose d'assez mélancolique. Et il y a ce truc très beau dans celle de du caïman, où en fait on a un dialogue entre Nanni Moretti et le producteur qui est dans le siège passager, et qui en fait se superpose avec la musique, c'est-à-dire qu'il s'arrête au milieu du dialogue pour reprendre le refrain. Et c'est une chanson d'Adamo, et il y a quelque chose de très très beau. La scène se conclut par le dialogue avec Yasmina Trenka, qui dit c'est une jeune réalisatrice qui veut faire un film pour dénoncer Silvio Berlusconi, et elle lui dit vous croyez que c'est le moment de faire une comédie, et Nanni Moretti répond j'essaie de le dire en italien.
Vas-y.
C'est sempre il momento de faire una comédie. Et voilà, c'est toujours le moment de faire une comédie.
Je suis
un peu multilingue, il faut le savoir.
Jean-Michel Policotte. C'était très bien, c'était très bien. Stéphane, c'est dans quelle langue, toi?
Alors moi, il faut juste... passer après ça, il faut mettre du lourd, quoi.
Ouais, t'es obligé. Ouais, parce que là, on parle de très très haut.
Voilà, un morceau absolument incroyable de film que j'aime beaucoup, qui m'a fait découvrir Terry Crews avant qu'il soit dans Expendables, à défoncer tout le monde avec son gros riot gun. Hein. Et c'est une scène, en fait, de White Chicks, des frères Wayans, FBI's Fosbonde, que je dois être le seul mec à regarder régulièrement autour de cette table.
Régulièrement?
Régulièrement, tous les 2-3 ans, j'en sais rien.
Ah oui, cette régularité-là, ouais. D'accord.
Et notamment à cause de cette scène absolument incroyable. Bah, c'est quand même, déjà, il faut resituer un peu le truc, c'est en fait deux flics blacks, en fait, qui sont joués par les frères Wayans, qui se déguisent en blondasses de Beverly Hills pour mener l'enquête, donc ils sont infiltrés. Oui. Et t'as Terry Crews.
Oui, c'est très con. Hein.
Voilà, c'est très très con, les maquillages sont horribles, donc du coup, c'est un des trucs qui rajoute une couche supplémentaire de comédie dégueulasse. Voilà. Et t'as notamment en fait à cause du fait que donc il joue une blondasse type Paris Hilton, tout ça, bah t'as Terry Crews qui veut impérativement en serrer une des deux, quoi. Oui. Enfin l'un des deux, quoi. Du coup il sait pas que c'est un mec qui est derrière le maquillage, et le frère Wayans fait tout, littéralement tout, pour le dégoûter, quoi. Et dans une scène où il l'emmène en soirée, parce qu'il est un peu obligé d'y aller avec lui, quoi. Ils sont en bagnole, et t'as ce moment-là, en fait, pour le dégoûter, le frère Wayans s'appuie sur, donc toujours en blonde, il appuie sur l'autoradio, et il lance une chanson qui est la chanson la plus girly, blanche, que tu puisses trouver, en fait, qui s'appelle, je crois, Thousand Miles. Et là, l'autre se met à pleurer, il se met à chanter comme si c'était sa chanson préférée. Et la scène, la chorégraphie est hallucinante. Et Terry Crews est absolument hallucinant dans la scène. Quoi. Et, c'est un morceau que tu peux trouver sur YouTube, hein, si vous avez pas envie de vous taper.
Oui, c'est celle où elle faisait de Vanessa Carlton, où elle fait du piano, avec le piano qui bouge dans le clip.
Et apparemment, c'est tiré de La Revanche d'une Blonde, de la BO de La Revanche d'une Blonde. Donc ça situe un peu le niveau. Quoi.
Exact.
Et donc, c'est vraiment.
C'est pas du mal de La Revanche d'une Blonde. C'est un film que j'aime beaucoup.
Ah, bah voilà, ça vaut tout là ce soir. Il y a Jimmy qui est en train de tomber dans les pommes.
La personne qui fait les, la fin du sur le site là, qui met les répertories de tous les films, là, elle va faire un score.
Elle va passer une super bonne journée. On est navré d'avance.
Cette scène est formidable et elle est tellement formidable qu'elle a été reprise dans un Adam Sandler avec Terry Crews qui apparaît dans un embouteillage devant Adam Sandler et qui se met à chanter. Alors je crois que c'est une autre chanson, je ne sais plus, mais ils ont repris littéralement le truc où il fait le con en bagnole, tu vois. Et comme le principe de Click, c'est qu'il a une télécommande, il peut accélérer tout ce qu'il veut, tous les passages de sa vie, il accélère ce moment-là et ça rend la scène encore plus ridicule. Ouais. Terry Crews, grand acteur connu.
Grand acteur connu.
Dans Brooklyn Nine-Nine, hein, il est très bon, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et
c'est vrai.
Qui peut aussi désinguer des gens au Riot Gun, tout en faisant rire, tu vois. Donc, qui parle avec deux parties de mon cerveau. C'est assez formidable. Voilà.
Et en parlant de gens qui parlent aux deux parties de ton cerveau, pour la meilleure cascade, tu as choisi un film de Clint Eastwood.
Bah, j'avais déjà cité ça dans une reco, tu vois, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment meilleure cascade que cette cascade, quand même, qui est quand même la plus.
Dans la relève.
Dans la relève, qui est ce moment formidable, j'en ai déjà parlé. Je ne sais plus dans quelle émission. Parce que
une émission.
On a fait plein, on parle de Clint Eastwood. Et c'est ce moment absolument formidable où Clint Eastwood. Après s'être fait violer par la méchante du film, quoi, vient se faire sauver par Charlie Sheen et en fait ils embarquent la BMW qui est stationnée dans un entrepôt au dernier étage. L'entrepôt va exploser et donc Clint appuie sur le champignon et en fait passe à travers la fenêtre et là t'as l'explosion absolument monumentale, t'as tout l'immeuble qui est désintégré et la bagnole qui s'envole tranquillement et qui atterrit sur l'immeuble d'en face, quoi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'était une scène, donc c'est totalement physique, hein, à part un plan dans le film ou un gros plan de Clint et de Charlie Sheen au volant, qui a été fait en fond vert. Et juste la scène, elle est hyper impressionnante encore aujourd'hui parce qu'elle est réglée au millimètre près. Et c'était une des cascades les plus chères de l'époque. Il y a plein de super cascades automobiles aussi dans ce film-là. Il y a notamment une poursuite que Michael Bay a complètement pompée dans Bad Boys 2. Où Clint Eastwood poursuit un camion qui convoie des bagnoles et on lui lâche les bagnoles sur la gueule et il termine la poursuite dans les choux, quoi. Très belle scène aussi. Donc voilà, il y a plein de cascades dans ce film. Si vous n'avez pas vu la relève, déjà pourquoi ? Mais il faut voir la relève. Quoi. Voilà.
David, tu m'as fait plaisir parce que j'ai cru qu'aucun d'entre vous n'allait le citer. J'étais un peu choqué. Tu as choisi Mad Max Fury Road, quand même.
Émission
sur la bagnole et cinéma. Et personne ne parle de Mad Max.
Il y a deux trois cascades qui sont quand même, pas mal. Bon, alors après, on a abondamment parlé au fil des épisodes de nos ciné, donc je vais pas être très long. Mais celle que j'ai retenue, c'est celle. J'ai retenu celle du retournement du camion-citerne à la fin, qui est vraiment une séquence très impressionnante. Et en fait, ça me permet juste de redire ce qu'on a entendu. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Mathieu Kassovitz ou je ne sais plus quel cinéaste français s'était pris au film sur Twitter en disant que c'était un abus d'effets numériques, etc. Et en fait, l'idée, c'est de rappeler que énormément des cascades du film sont des séquences justement pratiques et réelles, sur lesquelles il y a une couche d'effets numériques rajoutée pour plein de raisons, mais que c'est un film qui, de manière totalement anachronique aujourd'hui, réalise énormément de cascades dans la réalité.
Voilà. Et d'ailleurs, cette cascade, cette scène du camion citerne, je crois qu'elle fait. C'est dans un des bonus du film où on voit le tournage de la.
Ouais, je pense qu'on peut même trouver sur YouTube.
De la cascade, c'est très, très, très impressionnant. Puis on sent surtout toute la tension de l'équipe technique au moment du retournement du camion quand ils vont vérifier.
Tu peux pas le faire 50 fois.
c'est un making of qui est assez hallucinant. Jimmy, toi tu
alors j'ai changé.
Ah t'as changé. Ouais, tu m'as mis John Wick.
J'ai mis John Wick 2, mais c'est comme Demolition Man, c'est une toute petite scène qui me fait à chaque fois assez marrer où Keanu Reeves tombe de sa voiture et s'éclate la gueule dans une flaque d'eau. Voilà.
C'est toujours bien.
C'est la meilleure cascade.
Ouais, c'était. Non mais franchement, moi j'aime quand c'est simple, brut et tu vois voilà. Et en fait non.
Et que Keanu Reeves se fait mal.
Et en fait, je me suis dit, comme je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler durant l'année sur dans nos ciné, je me suis dit que en fait j'ai lu l'espace du rêve, la bio de David Lynch qui est sortie, qui a été traduite en français et qui est sortie le mois dernier et qui est vachement bien, que je recommande. Et en fait, dedans, il parle de la cascade qui est au tout début de Mulholland Drive, oui, de l'accident de voiture. Et en fait, je savais pas à quel point cette scène-là, elle a conditionné tout le film. C'est-à-dire que en gros, le bouquin est foutu. Chaque chapitre, c'est sur un projet, enfin un film, oui, généralement. Et en fait, sur Mulholland Drive, c'est assez long parce qu'évidemment, donc c'est une série qui est devenue un film après par la suite. Donc ça a vraiment eu un développement assez long. Et cette scène-là, en fait, en gros, ils l'ont tournée assez tard. Et visiblement, en gros, si elle était ratée, ils pouvaient pas la refaire une deuxième fois parce qu'elle coûtait déjà cher et qu'en plus, elle pouvait pas être faisable deux fois. Oui. Et elle était extrêmement dangereuse. Donc les gens qui la faisaient ils risquaient leur vie vraiment. Et en fait, le film pouvait s'arrêter là, quoi.
Oui.
Et donc voilà, je sais pas, je trouvais ça assez incroyable, ce fait que tout ce film là qui voilà, moi je suis pas très fan de Mulholland Drive, je préfère vraiment sa période d'avant,
mais qui est iconique en tout cas,
voilà, qui a failli ne pas exister à cause, oui, d'un accident plus qui est à l'écran et pas forcément très impressionnant,
non,
quoi, qui est important dans l'histoire, mais on sent pas vraiment que c'est aussi dingue que ça. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de lire en tout cas surtout le bouquin qui est vraiment hyper bien, qui a été écrit avec Christine McKenna, donc où elle raconte, elle, en gros, elle fait le boulot de biographe avec des propos rapportés, des choses comme ça, et lui en fait revient pour commenter avec des trucs beaucoup plus personnels, et c'est vraiment très intéressant, quoi.
Très bien, David, tu avais... Ah mais non, on en a déjà fait. Non, mais non,
bah, je peux finir avec la dernière catégorie.
Ah, tu veux entamer la dernière catégorie?
Comme allez. Ça, j'entame.
Allez, allez, entame
non, la dernière catégorie.
C'est la plus simple, c'est la meilleure voiture.
C'est la meilleure voiture, c'est pour moi, ça va être le moment le plus mondial de l'auto cette émission.
C'est ça.
Parce que je vais du coup citer vraiment une voiture qui existe. Alors, comme je le disais au début, je suis pas... Enfin, j'y connais pas grand-chose. J'ai mon permis, hein, contrairement à la moitié des gens.
Personnes.
Mais... Et comme tu disais, certains, on n'a pas le permis, mais on sait conduire.
C'est vrai, ça c'est autre chose.
Moi, j'ai pas le permis et je sais pas conduire.
Pourtant, vous avez été élevé dans des zones. Non, toi,
normalement, dans une zone rurale,
on est citadin. Dans des zones où il y a des métros.
Ouais, un citadin, et Jimmy est un.
En race campagne rurale, c'est pour ça. À partir de 6 ans, on conduit une voiture.
C'est ça. C'était 8 ans tout à l'heure quand on en parlait.
À 7 ans, on perd son berlingot. À 8 ans.
Et donc
c'est monstrueux.
Perdre son berlingot, voilà. Alors on va peut-être s'attarder.
Voilà une expression qu'on n'avait pas entendue depuis les années 80.
Vous m'expliquerez après,
ouais,
ce que ça veut dire.
On t'expliquera.
Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas une culture automobile très très développée, donc je la plupart du temps je connais pas vraiment
les modèles
ça, ouais. Ce genre de choses. En revanche, et du coup, ça me permet de citer un site internet qui est un site internet assez incroyable. Ça s'appelle l'Internet Movie Car Database.
IMCDB, ouais.
IMCDB, qui est complètement fou et qui relance, vraiment des centaines de milliers de modèles de voitures. Mais c'est un niveau de précision, vous imaginez.
Ça
même
recense
pas.
Par film,
modèle de voiture. C'est-à-dire que tu veux voir une Twingo de 96, tu vas trouver 350 films dans laquelle tu les vois parfois au
troisième plan. Ils identifient toutes les... C'est-à-dire que
je
suis allé le voir justement pour quelques films qu'on a là, mais la course-poursuite de Police Fédérale Los Angeles, la moindre voiture est taguée. C'est-à-dire que dans l'autoroute, là, toutes les petites voitures, elles sont... Il y a la marque.
Il y a le même site avec des flingues.
C'est vrai,
ouais. Ah oui, c'est génial.
J'ai pas mon permis d'arme.
Moi non plus, mais c'est pas grave.
Mais il a quand même des armes, par contre, Stéphane.
C'est flippant. Et donc, ça me permet de vous donner le modèle d'une voiture qui m'a fait un petit quelque chose quand je l'ai vue. C'est la Ferrari qu'on voit au début de Miami Vice. Alors, c'est une Ferrari.
Ah, j'ai eu peur parce que tu m'avais mis Miami Heat.
Ouais, mais alors,
du coup, j'ai cherché Miami
Heat.
Je sais que c'est une équipe de basket, mais c'est aussi le nom de Sexy Dance 4. Donc, je me suis dit, il a complètement pété les plombs.
Qui est beaucoup moins bien que le 3.
Oui, je sais que t'aimes bien Sexy. C'est pour ça. Non, mais je sais.
Et oui, je l'ai vu au cinéma en 3D, d'ailleurs, avec Sixth Sense 4.
Il l'a même recommandé dans un ciné. T'étais pas là, Stéphane.
Mais j'avais dit que c'était mieux que là.
On est dans la parodie là ou
il a vraiment recommandé.
Non,
ça.
C'est très bien.
Donc dans Miami Vice.
Et donc dans Miami Vice de Michael Mann, au début, il y a une Ferrari qui est une Ferrari F430 Spider F1, un modèle de 2006,
okay,
en couleur carcoal, si vous voulez.
Okay. Charbon, donc.
Okay. Charbon. Et en fait c'est surtout la manière.
Alors, tu parles pas très bien anglais parce que je crois que c'est pas carcoal. Hein,
c'est dites. Charcoal.
Alors l'espagnol, l'italien, tout va bien, mais
c'est plutôt un latin.
Ouais, c'est pour que nos éditeurs puissent googler plus facilement le truc. Et donc Et donc cette voiture, la manière dont elle est filmée, en fait, la séquence est de nuit, c'est une décapotable, on a les cheveux, la moustache de Colin Farrell qui frissonne au vent, il y a vraiment un truc qui se passe qui te fait sortir, chose que je ressens très rarement au cinéma, de me dire j'aimerais bien être dans cette voiture. Donc voilà, cette Ferrari.
Très bien, très bien, très bien. Jimmy,
Moi j'ai choisi un autre registre.
C'est une Ferrari aussi.
Ouais, c'est une Ferrari. C'est une Ferrari Spider également. C'est une Ferrari Spider California de 61. Ah. C'est une réplique. dans donc la
dit-il folle. Comme si je savais ce que ça voulait dire.
Dans la folle journée de Ferris Bueller.
Ah oui.
Et de John Hughes. Moi j'adore ce film, c'est un film préféré. Et puis surtout en fait, c'est que la voiture, elle a un rôle très très important dans le film. Parce qu'elle symbolise un peu la liberté des personnages, mais aussi leur émancipation à venir, puisque en gros, c'est grâce à cette voiture, je raconte pas comment, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, mais va permettre la confrontation d'un des personnages avec son père, etc. Enfin, et va un peu changer un des personnages. Et je la trouve assez chouette. C'est pas forcément plus mon type de voiture d'habitude. J'aime plutôt les trucs un peu vulgos, type Pontiac Transam, ce genre de choses.
Les R5 que tu conduisais dans les champs.
Voilà, mais j'ai moins d'attachement, mais la Pontiac Transam, c'est vraiment un truc de redneck. Hein.
Oui.
Ouais. et donc non, mais là, c'est juste que
aussi attaché d'ailleurs.
Ouais, carrément. Et voilà, non, enfin, voilà, c'est un film que j'adore et pour le coup, la voiture. Et en plus, il y a une scène, enfin, dans les deux cas, c'est-à-dire qu'elle a un rôle un peu dramatique dans le film et puis aussi hyper comique. Enfin, il y a une scène où ils vont déposer la voiture. Chez un voiturier, enfin une espèce de garage, et les mecs leur disent évidemment faut surtout pas la rayer parce qu'elle appartient au père des personnages. Et une scène d'après, on les voit en train de se taper une virée dans Chicago avec la voiture. Et les deux mecs, c'est vraiment, ils ont des têtes de truands. Enfin, c'est une voiture qui m'est venue tout de suite quand j'ai pensé à ce. Enfin, quand il y a eu la rubrique.
Très bien. Steph.
Bah, moi, comme personne l'a cité, du coup, j'ai mis. Oui. Forcément. Hein,
fallait bien que quelqu'un le fasse.
La plus belle bagnole de l'histoire du cinéma, quoi. Le Turbo Interceptor de Mad Max. Qui, parce que on en a parlé un peu tout à l'heure, toute la série de Mad Max, c'est quand même un fétiche autour de la caisse. C'est un truc qui fonctionne bien, et moi ce que j'aime beaucoup aussi avec cette bagnole, je la trouve super belle, incroyable, elle va super vite, c'est génial, tu vois. Mais en même temps, en fait, elle est parfaite pour un personnage comme Max, quoi.
Oui.
Et ce que je trouve assez génial, c'est elle est devenue tellement iconique, c'est la façon dont il l'utilise dans le 4, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde se l'arrache, en fait, et tout le monde la veut, et en fait, il y a un combat même entre Max et un des comment ils les appellent déjà, les blood packs,
les demi-vies.
Ouais, voilà, c'est ça, et qui pour la récupérer, et t'as toute une scène autour de ça.
Dead Boys.
Dans la scène finale. Tout ça pour te dire, finalement, la bagnole, c'est pas très grave au final, malgré tout, après les 30 ans qui sont passés entre Mad Max 3 et Mad Max 4, quoi. Et voilà, donc c'est une bagnole hyper iconique alors moi j'ai pas du tout la marque du modèle du moindre truc. Moi tout ce que je trouve génial, c'est qu'il y a un chien qui va avec dans le 2, c'est un truc comme vrai. Ça quoi. Donc c'est tout ce qui est toute l'icône en fait qu'il y a autour du truc qui c'est une des bagnoles les mieux filmées de l'histoire du cinéma quoi. Donc voilà, Turbo Interceptor forcément.
C'est bien.
C'est une manière de parler de Mad Max aussi.
Je suis heureux qu'on finisse sur Mad Max.
Voilà.
Même si je trouve un peu dommage que personne n'ait cité.
Mais on aurait fait Mad Max tout le temps.
Personne n'ait cité la DeLorean.
Dans Mortadelle et Christine, Mortadelle au cinéma, on aurait mis Mad Max.
Voilà, oui. Non, mais
la voiture d'enfer mécanique.
C'est vrai aussi. C'est vrai.
Elle est pas mal, hein. On dirait un cercueil et tout.
On dirait un cercueil roulant.
On les arrête plus. Ça
et la voiture de Sam Raimi qui est dans tous ses films.
La Oldsmobile. Formidable.
Voilà, formidable. Ce sera le mot de la fin. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la technique, merci au Mondial de l'Auto pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio. Le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, même celles où on parle pas de voiture, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Tu l'as fait exprès ?
Tu me crois pas assez bête pour faire la course avec ce taré ?
Binge.